on va retrouver le premier sujet de notre émission de ce soir avec Jérémy qui nous revient d'un reportage hier soir, c'est ça ?
C'était hier après-midi, hier après-midi, donc dans les rues de Pantin. C'est un maire socialiste qui vient d'être réélu, Bertrand Kern, qui vient d'être réélu confortablement au premier tour avec 58% des voix. Et donc à peine 48 heures après avoir été élu, la mairie a ordonné l'expulsion d'un logement au 38 de la rue Cartier-Bresson. Donc à Pantin, près des quatre chemins, vous allez découvrir tout ça dans le reportage. Et donc elle a fait valoir son droit de préemption sur les appartements, parce qu'en ce moment à Pantin, ça détruit pas mal, ça construit beaucoup.
C'est le nouveau Montreuil ?
Je sais pas, peut-être, je connais pas assez Montreuil. Je commence à connaître un peu Pantin, mais pas assez Montreuil. Donc voilà, je vous propose cette petite balade, entre guillemets. On va aller rejoindre la rue Cartier-Bresson à Pantin. Et puis ensuite, on va aller découvrir ces familles qui ont été expulsées. Et puis on va aller ensuite à la mairie de Pantin pour demander des comptes au maire. Et je vais pas faire de surprise, mais l'épilogue est assez triste. Donc on écoute ça tout de suite.
Bon, on est à Pantin aujourd'hui. On est à Pantin. Là, je suis en train de traverser le pont de la gare. Il y a énormément de trains qui circulent, de nombreux rails. Et devant moi, le boulevard périphérique, la Cité des Sciences, au loin, un petit peu. Périphérique qu'on entend. Et si on est à Pantin, il y a des grands moulins, bien sûr. Les grands moulins qui sont en pleine reconstruction. Et d'ailleurs, toute la zone des grands moulins est en train d'être détruite pour être reconstruite. Et de nombreux immeubles sont d'ores et déjà vidés, évacués. Si je dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on va dans la rue Cartier-Bresson. Dans la rue Cartier-Bresson, à Pantin, où le maire socialiste, qui vient d'être réélu récemment, vient d'expulser une famille et faire valoir son droit de préemption sur les logements du quartier des quatre chemins, à la croisée de Pantin, d'Aubervilliers, de la Courneuve, qui est, comme beaucoup d'autres zones à Pantin, un quartier en pleine restructuration avec des guillemets, c'est-à-dire qu'on détruit pour construire des nouveaux logements neufs, un petit peu comme ce qui se passe autour de Fréquence Paris Pluriel avec la mairie de Paris. Voilà, on quitte la rue Édouard Vaillant, qui reliait la mairie de Pantin aux quatre chemins, pour rentrer dans la rue Denis Papin. On voit de nombreuses zones en construction, hein, des chantiers interdits au public, des zones en pleine destruction pour construire là une zone d'activité, là-bas des logements d'accession à la propriété, et encore là-bas l'extension du fabricant de luxe Hermès. Voilà, donc je suis devant la rue, devant le 38 de la rue Cartier-Bresson. Donc devant l'immeuble, un immeuble tout blanc avec un magasin de brochettes en bas, complètement muré avec des parpaings, avec des messages inscrits sur la vitrine du restaurant. Non aux expulsions, écrit en jaune. Devant, on est une petite vingtaine à attendre de partir pour la mairie. On voit donc il y a encore des rideaux aux fenêtres de ce bâtiment, il y a l'électricité qui est à l'intérieur, et il y a quelques fenêtres qui sont complètement murées avec des parpaings. Et au rez-de-chaussée, donc un grillage, une grille métallique avec une ancienne boulangerie, une ancienne sandwicherie grecque. Et du linge qui sèche aussi aux fenêtres. Et quelques fleurs.
Mal logé, expulsé, même combat. Logé, mal logé, expulsé, même combat. Mal logé, expulsé, même combat.
Alors on est devant la mairie de Pantin. On est arrivé, il y a une banderole marquée relogement pour toutes les familles expulsées par la mairie au 38 rue Cartier-Bresson.
C'est inhumain, c'est pas du tout humain de faire sortir quatre familles avec 6 enfants et une femme enceinte et un nouveau-né, sans relogement, sans rien, c'est vraiment quelque chose qui touche, qui fait mal. Parce que nous, ça, nous on, dans d'autres pays, on accueille bien, nous, les gens d'Afrique. Mais je ne comprends pas pourquoi, sans relogement, ils dorment dehors, sous la pluie. Avant-hier, il a neigé. Dans la vie, il faut avoir pitié quand même. Parce que nous, on n'aurait jamais osé faire des trucs comme ça. Sans relogement, sans rien, sans toit, sans rien. Quand même, on est des êtres humains. On est des êtres humains, on a besoin de quelque chose pour se réchauffer, pour, je sais pas, dans l'humanité quand même. Il faudrait vraiment avoir la pitié et avoir le sens de l'humanité quand même. Qu'on comprend pas sans toit, sans rien. La pluie tombe, les enfants tombent malades. Les mamans, ils ne dorment pas. Que faire? En plus, il fait froid, il y a le vent, il leur faut du bois pour faire du feu. Ça fait que depuis mardi matin, ils ont été sortis sans rien du tout. C'est inadmissible. Pour moi, c'est inadmissible. Il faudrait vraiment nous aider, les aider. Ils peuvent pas rester sans toit. Les hommes dorment dehors, sous la pluie. Bon, il y a les gens de la commune qui ont ramené des tentes, au moins pour nous aider. Ça, on les remercie beaucoup. Remercie vraiment. Et qui nous ont donné, qu'ils ont donné des hôtels pour 6 jours, pour l'instant. Avant vendredi, on leur remercie beaucoup les gens de la commune de Pantin quand même. Ils ont fait vraiment le nécessaire parce qu'ils ont été très très gentils. Mais on peut pas rester sans, ils peuvent pas rester sans toi. C'est inhumain. Il y a une loi qu'il faut respecter quand même. Déloger sans relogement, on n'en veut pas. Après vendredi, comment ils vont faire? Faut vraiment savoir aussi qu'il leur faut des maisons le plus possible, le plus vite possible. Même s'ils les ont aujourd'hui, ça nous fait vraiment plaisir. Mais avant quand même que les gens de l'hôtel, les hommes, ils dorment dehors. C'est vraiment inadmissible. Les enfants, ils commencent à tomber malades. Avec ce temps-là, il faut réfléchir. Parce que depuis le matin, les femmes, ils sortent de l'hôtel pour venir dehors. Sous le froid, il pleut avec tout ça. Mais c'est vraiment... c'est...
Est-ce que la mairie vous a donné un motif d'expulsion ou pas?
Ils ont donné un motif d'expulsion? Non. Sans motif. Ils sont venus le matin sonner à la porte, toquer à la porte et les faire sortir les gens. Vous croyez que c'est normal? Je trouve pas.
Il y a d'autres rues dans Pantin, je pense à la rue du Congo qui est pas très loin là-bas, qui est en train d'expulser aussi parce qu'il y a, il y a l'extension d'Hermès, oui, le fabricant de luxe. Il y a d'autres, probablement d'autres rues près des quatre chemins qui vont subir le même sort. Vous arrivez à vous liguer ensemble pour essayer
oui,
de faire quelque
mais
chose?
Oui, mais oui. Mais le problème c'est quoi? Ce que je comprends pas. Ils ont fait sortir les gens et en même temps, il y a des gens qui sont là-bas dans l'immeuble, mais que eux, ils sont là-bas, ils sont pas encore sortis, mais eux, ils sont pas comme les autres. Parce que eux, ils ont loué ou ils ont acheté en fait l'immeuble. Et ils disent qu'ils vont casser l'immeuble. Mais comment ils vont casser l'immeuble puisqu'il y a des gens là-dedans?
Il y a des gens qui habitent, il y a certaines familles qui ont été expulsées, pas d'autres.
Il y en a, non, parce que eux, ils ont acheté l'immeuble. Et eux, ils ont pas fait encore sortir. Et leur motif, soi-disant, je crois, c'est qu'on a entendu par rumeur qu'ils veulent casser l'immeuble. Et l'immeuble peut pas être cassé tant qu'eux, ils sont là-dedans. Ça veut dire, pour moi, qui m'excuse du terme, mais c'est du pire mensonge. Nous, on veut une maison. 4 familles dehors, c'est inadmissible. Même pour les autres, c'est inadmissible. Tout ce que j'ai à dire.
Même combat. Loger, mal loger, expulser, même combat. Loger, mal loger, expulser.
Moi, je veux qu'il y ait des familles qui sont quoi avec les familles Toukara. La mairie, il doit être passé. Même si ils s'en foutent des messieurs Soussoro et des messieurs Toukara, les enfants, les femmes, ils sont des Français comme les autres. Il doit être passé maintenant, on est mardi, la fin du mois de septembre là. Les froids, ils ne sont pas encore finis. Ils sont mis le dehors là. Donc moi je pense que c'est chose bizarre quoi. C'est terrible. Il doit être passé. La mairie, ils sont des logements, ils sont familles, ils sont des logements. Il doit être passé les uns les autres. Tout le monde doit être vivi. Comme par rapport aux chaque fois, ils ont parlé à la droit de l'homme, le tout comme ça. Ça, ce n'est pas un droit de l'homme, ça. Une bébé de même pas 4 mois. Un autre il y a 12 mois, un autre il y a 1 an et demi. Donc pour mettre ça à la dor, franchement, chez moi, je vois les gens, ils dorment comme ça, j'ai mal au cœur. Ça fait mal au cœur quoi, c'est une honte terrible.
Vous étiez dans l'immeuble aussi?
Ouais, puisque son ami, ça fait quelques années, je connais déjà. Donc moi je veux que les mairies doivent passer, ils donnent des logements Donc ils ne sont pas refusés de logement, ils sont capables à payer des logements, ils sont travail, ils sont de soi pour la payer. Mais il faut que la mairie il doit savoir pour donner logement à les gens. Je vous remercie.
Merci.
Il est 5h10, 5h15. Et il y a une délégation donc, d'une dizaine de personnes qui représentent. Il y a le PC, il y a Lutte Ouvrière, il y a la Ligue communiste révolutionnaire, il y a Réappropriation communale aussi. Et puis quatre représentants de familles, enfin les représentants de quatre familles qui vont être reçus par le maire de Pantin pour essayer de trouver. D'essayer de reloger ces familles. On est une trentaine de personnes devant la mairie actuellement. Les militants distribuent des tracts aux passants qui n'ont pas l'air d'être très au courant de ce qui se passe d'ailleurs.
Sur les logements, pour l'instant, la réponse est toujours négative. Il n'y a pas de logement. Malgré les protestations, le fait qu'il y ait des enfants, etc., ça a été un bras de fer pendant je ne sais pas combien de temps. Un peu plus d'une heure. Mais en fin de compte, on a tourné en rond.
Il y a des appartements qui se libèrent. Il y a ce week-end où il habite la jeune fille, là. Il y a un appartement en quatrième étage qui vient de se libérer. Un 9-3. Qu'ils arrêtent de prendre des gens pour des cons, qui disent qu'on croit. Il y a 3800 demandes de logement à Pantin. Ils donnent les appartements à qui ils veulent. Avant les élections. Avant les élections, une semaine avant les élections, ils ont donné aux gens des appartements pour qu'ils les laissent tranquilles.
Oui, c'est ce qu'on leur a dit.
Alors, on leur a dit
qu'ils arrêtent de prendre des gens pour des cons.
Attends.
Ça fait 16 ans que j'habite Pantin et mon fils, il est né à Pantin, il a 14 ans. Il vit à ce jour à Pantin.
On leur a parlé de ces histoires d'appartements parce que nous, on a entendu effectivement qu'il y avait des attributions qui s'étaient faites juste avant les élections.
Et un jeune, il ne travaille même pas. C'est quelqu'un, sa mère qui travaille ici à la mairie, il a un F3. Donc la question, cherchez c'est qui?
Non, parce qu'il y a l'intransigeance quand même de Pierre qui est, dont la position est, il n'y a pas de raison qu'on reloge des squatteurs. On a quand même fait valoir qu'ils avaient été abusés et qu'ils avaient, par des marchands de sommeil, qui leur ont fait des faux-beaux. Mais de toute façon, pour lui, ce sont des squatteurs. Il y avait un arrêté d'insalubrité qui avait été pris depuis 2005. Les familles qui étaient là en 2005 ont été relogées. Et eux sont venus après, donc partant de là, ils considèrent, même s'ils ont été abusés par des gens qui leur ont fait des faux-beaux, ils considèrent que ce sont des squatteurs, à tort, puisqu'ils ont été abusés. Mais et par conséquent, ils ne veulent pas les reloger, quoi.
Alors, je suis Philippe Dumont, de Réappropriation communale, un réseau de citoyens sur la ville de Pantin. Alors, on a été reçu en délégation par la mairie de Pantin, par monsieur Philippe Bon, qui est du cabinet du maire, et sa secrétaire, qui nous a expliqué que, de toute manière, il ne pouvait pas reloger les quatre familles expulsées, vu que, pour lui, les familles étaient squatteurs. À partir de là, on a expliqué qu'il y avait un devoir humanitaire de la part des services publics et de la mairie pour faire face à cette situation et de reloger en urgence les gens. Il nous a répondu que 3800 personnes attendaient sur Pantin un logement. On lui a dit de toute manière que des logements, il y en avait en réserve en cas d'urgence. Il n'a pas voulu entendre notre demande. Il s'est remis sur l'histoire du préfet pour voir si le préfet va peut-être trouver une solution. Pour l'instant, le préfet est en vacances, donc attente du retour de vacances du préfet. On lui a quand même stipulé que cette logique était d'ordre monstrueuse pour lui. Et le visage d'un monstre est apparu, d'un monstre qui met des gens à la rue sans pouvoir faire le programme de réhabilitation des logements en question. Pourquoi ? Parce que les logements... Il y a encore des occupants dedans et le programme de destruction ne peut pas être mis en place. On lui a stipulé que c'était pour nous une provocation. de sa part de mettre des gens à la rue quand il neige, même après la trêve du 15 mars. Alors effectivement, on lui a encore stipulé que le maire était élu depuis plus de 48 heures et que c'est encore cette provocation-là, fort de ses 58% aux élections municipales, il pouvait se permettre ce genre de choses. Mais on lui a très bien stipulé qu'on ne désarmera pas, qu'on ne baissera pas les bras, que s'il continue comme ça, il va être face à une situation de plus en plus gênante pour lui. Ça sera des dizaines, des vingtaines, des centaines et peut-être des milliers de personnes qui seront en demande devant sa mairie pour demander un logement. Dans ce cadre-là, nous lui avons dit que 4 familles valaient mieux que 150 à gérer tout de suite. Donc son intérêt était de toute manière, son intérêt et notre intérêt aussi, hein, et l'intérêt des familles bien sûr, était de reloger immédiatement les 4 familles avant que les choses s'amplifient, que la presse prenne le relais et qu'il fasse la une des journaux. Voilà.
Et il a rien dit à ça? Il va bien dormir ce soir tranquillement?
Alors visiblement il va bien dormir ce soir. Lui il est chauffé, il est avec sa famille et les familles lui ont stipulé ça, effectivement, que dans quelles conditions ils vont dormir, eux sous la neige et sous la pluie et sous le vent, et eux dans leur logement. Il ne répond absolument à rien.
Et il s'en fout.
Bah oui, on peut dire qu'il s'en fout, oui.
C'est comme ça qu'il a dit, je fais rien pour ces familles, je les laisse à la rue, je suis conscient que je les laisse à la rue.
Tout à fait.
D'accord.
C'est quelque chose d'assez hallucinant pour des gens qui se disent responsables d'une mairie, qui se présentent. Alors s'ils sont pas capables de gérer une mairie, gérer 4 familles à la rue et les mettre dans un appartement, faut qu'ils arrêtent de faire de la politique, ces gens-là. S'ils peuvent rien faire pour les gens, il faut qu'ils arrêtent direct de faire de la politique. Laisser la place à des gens un peu plus compétents. Parce que visiblement, leur incompétence, elle est flagrante.
Ouais, donc Nicolas de la LCR, donc j'étais dans la délégation. Et ce qui s'est dit, on avait le directeur de cabinet qu'on connaît bien pour des affaires similaires et sa collaboratrice, même chose, qui nous ressortent le même discours. On n'a pas de logement et deux, de toute façon, on ne reloge pas des squatteurs. Bon, on ne reloge pas des squatteurs, c'est faux, et fort heureusement d'ailleurs, puisque dans le même logement, il y avait d'autres gens qui n'avaient pas de bail, enfin dans le même immeuble, il y avait d'autres gens qui n'avaient pas de bail et qui ont été relogés. Et semble-t-il, là, les familles sont arrivées après cette première vague de relogement, et donc là, ils veulent pas aller plus loin. Sur des logements, ils en ont pas, c'est ce qu'ils disent. Nous, on peut pas vérifier, on n'est pas à la tête de la mairie. Ils finissent toujours par en trouver au bout d'un moment. Enfin, disons qu'on a eu le même discours il y a 2 ans quand on avait fait parler des expulsions. On a eu le même discours pendant un mois. Ça avait été une lutte d'un mois. Ça avait été très dur. Il faisait pas aussi froid que maintenant, mais ça avait été quand même dur. Et les familles avaient campé pendant un mois. Et puis finalement, il y avait eu des logements pour les familles. Donc là, on continue, quoi.
D'accord. Et il a rien dit du tout. Enfin, quelle solution il apporte? Zéro solution aux familles.
Zéro solution. Et même l'idée de prolonger l'hôtel, puisque là pour l'instant les familles ont l'hôtel jusqu'à vendredi. L'idée de prolonger l'hôtel au-delà, c'est pas possible. Ou alors il va donner une réponse là-dessus. Mais a priori c'est non. Même pour prolonger l'hôtel. Donc. Et donc là, les familles à un moment demandaient, mais nos gosses, enfin en plus il fait froid en ce moment, donc nos gosses ils meurent de froid, etc. Qui c'est qui est responsable? Et il répond, c'est les parents qui sont responsables.
C'est les parents, c'est pas la mairie de Pantin évidemment.
Non, c'est écrit dans la loi, c'est les parents. Il est très légaliste, enfin ils sont toujours très légalistes quand ça les arrange.
Bah là en l'occurrence c'est la fin de la trêve hivernale qui l'empêche pas d'expulser les gens, c'est ça?
Voilà, la fin de la trêve hivernale, la fin des élections aussi, une réélection confortable et tout ça, bon, tout ça aide.
Donc ouais, il se branche donc sur la loi et sur son mandat qui vient d'être renouvelé avec 58%.
qui fait qu'il peut se permettre un peu tout ce qu'il veut, en fait. C'est ça qui vous a fait comprendre.
C'est un peu ça qui nous fait comprendre. C'est un peu une réédition de la lutte, enfin d'une lutte qu'il avait déjà eue avec d'autres familles qui ont été relogées donc, grâce à la lutte. Bon, c'était à ce moment-là, c'était deux ans avant les élections. Donc là, on n'est pas dans la même configuration. Je pense que c'est un test pour tout le monde, quoi. On a fait comprendre que s'ils foutent les familles dehors, que si vendredi, effectivement, il n'y a pas de prolongation d'hôtel et que les familles, elles sont juste dehors à la rue, ce sera peut-être à la mairie qu'on viendra, enfin à l'hôtel de ville, puisque l'autre hôtel, c'est plus possible. Vous savez comment ça va finir. Il y a quelqu'un qui a dit, vous allez quand même pas envoyer les flics sur des nourrissons. Il a dit, vous savez bien comment ça va finir.
Donc avec des flics sur les nourrissons.
Oui, en même temps, ils l'ont déjà fait. C'est déjà arrivé, on a déjà fait des occupations de l'hôtel de ville. Ils ont déjà envoyé des flics sur les nourrissons. Et il a très clairement dit qu'il ferait la même chose. Donc, bon. Eux, ils sont dans leur taf. Une première réunion, je pense pas qu'ils allaient dire autre chose. Après, on va voir. Après, c'est une lutte, on sait pas qui c'est qui va gagner.
Voilà, donc c'était l'action d'hier à Pantin. Donc vous voyez, des militants assez pessimistes ensemble. Il y a des mobilisations qui continuent sur la ville. Il y a une conférence de presse qui est prévue demain dans la journée, demain jeudi. Et puis d'autres actions à venir pour permettre le relogement de ces familles. Vous avez entendu qu'à Pantin, c'est un peu le traitement qui se passe à Corbeil-Essonnes. Hein. On a l'impression d'être dans une ville de Dassault quelque part, avec des passe-droits pour les logements et puis une police municipale, une police qui intervient. Pour l'instant, à Pantin, elle n'est pas armée, mais c'est pas impossible que pour le mandat du maire, elle le devienne.
Quand les cigares ils changeront de bouche, quand les stars elles changeront de main, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le bottin, quand les gibus ils changeront de tête, quand les bagouses elles changeront de doigts, quand l'homard il changera de fourchette, les employés on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Remarquez même en Rockefeller, je resterai comme un fils d'ouvrier. Un employé, un bas salaire, c'est une chose à pas oublier. Oui, mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas ils changeront de derrière, qui c'est qui changera de bignou, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime il changera de client, quand les smoking changeront de valise. Alors là dit, les gentlemen, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Ils changeront de bouche, quand les stars elles changeront de main, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le bottin, quand les gibus ils changeront de tiette, quand les bagouses elles changeront de doigts, quand l'homère il changera de fourchette, les employés on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. La 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 la
PDG. Voilà, toujours sur les oreilles loin du front, sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Et on va donc tout de suite passer au dossier de cette émission, donc, qui est constitué donc d'extraits d'intervention à une rencontre débat autour de la question de la vieillesse dans l'immigration. Donc cette rencontre débat qui avait lieu à Toulouse au festival Origine Contrôlée le dimanche 14 octobre dernier. Donc on va tout de suite entendre plusieurs interventions. Je vais laisser le soin à Salah Amokran du Tacti Collectif de nous présenter ce premier intervenant.
J'ai demandé de commencer, j'ai demandé à Bolène de commencer parce que je crois qu'avant de rentrer dans des constats plus précis, avant qu'on ait une présentation d'un point de vue social, je pense que c'était important, et c'est aussi quand même le sens un petit peu du choix qu'on a fait de cette discussion, de poser aussi la question, alors d'un point de vue je dirais plus politique, qu'on pose un peu le cadre politique de cette question-là. Et puis, quand même, avec Rojba, vous avez à Lyon, à partir de Lyon, vous avez quand même pas mal travaillé justement sur le plan politique en termes de par rapport à la revendication d'égalité et de justice. Donc voilà, je vais te passer la parole tout de suite, Boalem.
Moi, je viens donc de l'association, au début, c'est l'association Diversité, qui est une association basée dans, dans l'agglomération lyonnaise. On était plus sur les questions donc, de questions de justice, police, questions de quartier, logement, les questions de logement et les questions qui sont dans ce qu'on appelle les quartiers populaires et les banlieues. Et c'est vrai, pendant un petit moment, on était plus dans notre problématique quotidienne, etc. Mais à un moment donné, et chacun de nous, quand on rentre chez soi, moi qui est immigré, on s'en est rendu compte quand même, il y avait une population qui était là, qui était avant nous, sans elle, nous, on ne serait pas là. Et que cette population, elle était assignée à une invisibilité. Et une population qui était pour certains d'entre elles mis de côté, qui était pour ceux qui ont fait le choix ou qu'ils n'avaient pas le choix ou les moyens d'avoir toute leur famille avec elles, qui vivaient quand même dans ce qu'on appelle les foyers. Donc, et c'est des personnes qui étaient là depuis 20, 30, 40 ans, qui ont travaillé toute leur vie. Et un effet mécanique, au jour d'aujourd'hui, une bonne partie d'entre elles, même une bonne partie de la deuxième génération qui arrive quand même à l'âge de la retraite et qui sont aujourd'hui, qui subissent encore d'autres tracas, d'autres discriminations, d'autres difficultés. Nous, on est parti après dans Diversité, on s'en est rendu compte qu'on voulait aussi s'approprier une partie de notre histoire, de notre héritage, etc. Et ça passait aussi par une connaissance, une réappropriation de vis-à-vis de cette population-là, qui sont nos parents, nos oncles, les voisins pour certains d'entre vous, etc. Et on a commencé à y aller voir dans quelles conditions. On a commencé d'abord par rapport aux personnes qui vivaient dans les foyers. On commence à les voir et pour ceux qui ne connaissaient pas bien, on découvrait quand même dans quelles conditions ils vivaient, qu'ils étaient là depuis des années. Donc de ce constat-là, on est parti, on a voulu que cette question soit aussi traitée, comme l'a dit Salah, d'une manière politique. Ça faisait partie aussi de nos revendications de tactique, de motiver, diversité, le MIB, etc. Ça faisait aussi partie des revendications même les plus urgentes, vu que voilà, on n'est pour rien, il y a beaucoup d'entre eux qui peut-être ne seront pas là. D'ailleurs, beaucoup de vieux qu'on suit, on n'est pas sûr de les revoir le lendemain. Moi, j'en suis témoin encore de quelqu'un qu'on a vu cet été, qu'on traitait son dossier, et j'apprends qu'il est décédé à Bordeaux dans des conditions incroyables. Il a failli être enterré au carré des indigents parce que pas de famille pour le récupérer. Il était handicapé, il avait plus de 90 ans. Et il y a toujours encore des fonctionnaires ou des administrations hyper zélées pour le convoquer, pour savoir s'il est vivant. Donc on convoque quelqu'un pour prouver qu'il est vivant et pour savoir s'il n'est pas en train de frauder, s'il passe pas trop de temps avec sa famille ou bled. Et d'autres vont en parler. Il faut savoir que ces personnes-là, pour ceux qui sont à la retraite, on les oblige vraiment, on les assigne à justifier 6 mois et un jour de présence en France pour qu'ils puissent prétendre à ce que nous on estime leur droit à certaines prestations, à la santé, etc. Donc on a fait une pétition qui s'appelait Justice et Dignité pour les Chibani, qui avait pas mal d'écho. On a été contacté par beaucoup de personnes qu'ils étaient très sensibles à cette question-là. Et on a vu depuis, donc nous, on ne voit pas ça d'un mauvais œil, mais on voit quand même que ça devient de plus en plus une préoccupation très importante. Nous, on est là justement pour être vigilants, pour qu'on ne fait pas encore une récupération et que ça ne soit pas un fonds de commerce ou que ça ne soit pas encore l'occasion, la énième occasion de traiter cette question-là qu'à travers des prismes subventions, colloques, nouveaux projets, contre-projets, etc., etc. On voit aujourd'hui, on parlait avec les amis, on voit, on part des constats qu'il faut quand même, comme disent les toubibs, mauvais diagnostic, mauvais remède, comme on dit chaque fois, mais on commence d'abord par les écouter, par les entendre, écouter ceux qui le côtoient, leurs enfants, leurs familles, etc. Et après, on peut commencer, il faut faire face à l'urgence d'abord, mais après, on peut commencer à proposer des solutions. On voit que ça se fait l'inverse. On voit qu'il y a une espèce de course à la montre. Hier, on parlait de... Moi, je dis c'est une partie. Le mot, il est un peu fort, mais on essaie de créer des petites réserves. On appelle ça les cafés sociaux. On appelle ça des lieux de convivialité, des lieux ressources. Sachant que la préoccupation de ces personnes-là, elles sont autres, elles sont aujourd'hui, c'est qu'ils veulent pouvoir vivre là où ils le veulent, avec dignement, avec des moyens dignes, et qu'on passe pas, qu'ils font pas à leur retraite un espèce de plein temps administratif. On a des vieux, quand on les voit, moi je l'ai vu encore cet été, maintenant ils ont deux sacs, il y a un sac plein de médicaments. D'ailleurs, ils collectionnent, ils cumulent toutes les maladies inimaginables, celles du travail, celles de la dépression après, celles de la fatigue, etc. Et un autre sac qui est plein de paperasse, y compris les publicités, j'en ai vu. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont tellement méfiants qu'ils ne jettent rien. Tout ce qui est dans la boîte aux lettres, à part que c'est connu, les lettres, ils les gardent. Mais c'est des personnes, voilà, on les trouve dont elles baladaient d'une administration à l'autre, dans la suspicion totale. On a vu, il y a des amis ici marseillais, tout le monde en a entendu parler quand même, que voilà, par une décision de j'en sais où, on a le centre des impôts qui refuse de livrer une avis d'imposition qui est vraiment, pour ceux qui savent, qui est vraiment... Sans cet avis-là, on ne peut pas avoir telle prestation. On ne peut pas même des fois se faire renouveler son titre de 10 jours. Et du jour au lendemain, on avait des milliers, c'est 4, 5 000, 6 000, on ne sait pas les chiffres. C'est des gens qui ont été radiés et qu'on a quand même mobilisé une administration tout entière pour traquer ces fraudeurs. Ils avaient tous 65, 60, 70 ans, etc. Et on avait ces opérations-là se multiplier. On l'avait à Argenteuil, on l'avait ailleurs, etc. On a même des difficultés. Je devais commencer par... On ne sait pas comment... Les gens ne savent pas comment les appeler. Chacun l'appelle. Moi, nous, à Lyon, on utilise beaucoup le terme Chibani. Il nous apparaît... En même temps, il est très affectueux. Il est très... Dans d'autres, on les appelle les vieux migrants. D'autres, ils les appellent les sages, les anciens. Et en même temps... c'est vrai que cette question elle est très importante, elle n'est pas encore tranchée, etc. Bah, pour les vieux, maintenant, on garde vieux travailleurs immigrés, on garde tout ça. Et nous, à travers ce qu'on fait avec notamment aussi les tactiques motivées, le MIB, on voulait que cette question soit traitée correctement, en dehors de toute agitation médiatique, etc. Et que ça soit mis sur la table, et c'est pas qu'on... pour en finir, je donnais l'exemple par exemple du film Indigène, tout le monde l'a vu, tout le monde, je ne sais pas, tout le monde s'est extasié, pourquoi pas, le film il est intéressant, il a pu poser une problématique sur la place publique, et tout de suite on a tout dit, que par exemple les anciens combattants, ils ne sont pas loin d'ici, ils sont à Bordeaux, on a dit que la question il est réglée, on a doublé leurs indemnités, c'est très séduisant, mais qu'on double 4,50€ par mois, ça ne ferait que 5 euros par mois. Donc on peut dire on a augmenté de 100%, ça ne fait que ça. D'ailleurs, le problème n'est pas du tout réglé. On a tablé cyniquement, c'est-à-dire que ça a été posé en 2000, déjà en 2001, c'était à l'époque Fabio, Jacques Ralit, etc., Jospin, qui disaient on ne touche pas à ça, ça coûtait trop. 7 ans plus tard, on a fait les calculs, beaucoup d'entre eux ont disparu, il n'en reste pas beaucoup. Donc maintenant, on peut être généreux à moindre frais. Et même ça, on ne l'est pas. Juste un petit mot pour voir, quand je parlais tout à l'heure de nostalgie malsaine, on le voit même dans les projets de loi actuellement de Sarkozy. C'est-à-dire on a ces personnes-là, on a cru qu'elles rasaient les murs, qu'ils courbaient les chines. C'est pas vrai. On l'a vu hier à travers la chanson, ils étaient plus avant-gardistes que certains de leurs descendants aujourd'hui. C'était plus ouvert d'ailleurs. Et ils luttaient, il y avait leurs associations, il y avait quand même... On ne l'a jamais fait pareil, il y a des copains ici toujours de Marseille, je les appelle à témoins, qui avaient quand même la première grève générale contre le racisme. On ne l'a pas vu, on ne l'a pas appelé depuis. Et c'est des personnes qui ont quand même bougé. Dans les projets de loi actuels, on voit quand même cette méconnaissance, cette nostalgie aujourd'hui. On fait encore l'éloge de l'immigré Zoufri, c'est-à-dire c'est l'ouvrier qui vit tout seul. Donc on veut encore des ouvriers qui vivent tout seuls en croyant qu'ils sont dociles, qu'ils sont domptables. Et c'est des clichés, c'est des fantasmes.
Voilà, donc on vient d'entendre Boualem Azaoum, qui est militant associatif dans la région lyonnaise et notamment membre de Diversité. Donc on entend toujours des extraits d'une rencontre débat qui a eu lieu à Toulouse le 14 octobre dernier lors du festival Origine Contrôlée, et donc une rencontre débat autour de la question de la vieillesse dans l'immigration. Et dans quelques instants, puisque Salah va rebondir un peu sur les propos de Boualem Azaoum tout de suite, ensuite on entendra donc Jean Mantovani de l'Observatoire Régional de la Santé Midi-Pyrénées.
Ce qui est intéressant un peu dans ce qu'a dit Boualem, c'est qu'on est vraiment aussi
sur des questions. Bon, bien sûr, il va y avoir les questions du traitement social, mais la question du droit, la question de l'égalité, elle est fondamentale dans cette discussion-là. Et souci qu'on aura aujourd'hui vraiment, c'est quand même effectivement de ne pas tomber dans une catégorie, de ne pas tomber dans un cliché, dans une figure unique des choses. Il y a, que l'on soit âgé ou moins, s'immigré ou pas, autant de diversité quand même que de personnes. Et ça, c'est, je crois que c'est important de le dire.
Merci Salah. Donc on va continuer sur une deuxième intervention avec Jean Montovani, là, qui va nous présenter un peu une étude et Khadija. Première étude qui a été faite en Midi-Pyrénées sur ce public-là, et de savoir un peu de qui on parle. On parlait d'images figées. Donc au regard de ces études, de cette étude et des résultats, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur de qui parle-t-on quand on parle de vieux migrants ?
Oui, bonjour tout le monde. Chacun vient là avec son expérience. La nôtre, c'est celle de la recherche, disons. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là des études, on voit qu'effectivement, progressivement, et il est plus que temps d'ailleurs, la question des vieux migrants devient une question de politique, et de politique sociale en particulier. Alors, on le mesure en particulier au nombre de programmes qui sont lancés. Et sur Midi-Pyrénées, nous sommes chargés de, disons, la première étude un peu conséquente qui ait jamais été demandée, à l'occurrence par la DRAS et l'ACSE, qui se sont engagés sur ce terrain d'essayer d'y voir un peu plus clair à l'échelon régional sur qui sont les personnes vieillissantes issues de l'immigration. Et c'est le travail dont nous sortons aujourd'hui d'une première phase de 18 mois à 2 ans qui nous amène aujourd'hui à rendre compte un peu de qui on a rencontré sur le terrain. Une étude qui s'est déroulée en deux phases, une auprès des intervenants, en deuxième volet d'études qui s'est intéressé alors beaucoup plus spécifiquement aux personnes elles-mêmes, c'est-à-dire que nous sommes allés à la rencontre d'un certain nombre de situations, plusieurs dizaines en l'occurrence, pour essayer de mesurer la distance qu'il peut y avoir entre le point de vue des professionnels et le point de vue du vécu, disons, la façon dont les gens vivent eux-mêmes leur situation. Alors, nous sommes en Midi-Pyrénées. Je vais simplement vous donner quelques pistes sur ce que nous avons trouvé, en partant peut-être d'abord de la documentation générale, pour constater que ce soit en Midi-Pyrénées ou ailleurs, d'ailleurs, on ne parle des vieux migrants qu'autour de situations un peu extrêmes, celles des foyers en particulier, celles de profils particulièrement précaires qui font un peu l'actualité, qui remontent de temps en temps, que l'on considère toujours sous ce titre d'immigrés, alors qu'il y a quand même un paradoxe fondamental derrière le constat que ces immigrés-là le sont depuis 40 à 50 ans. On parle là des gens qui ont migré ou immigré ou émigré, je n'en sais rien, à partir des années 45-50. Donc vous voyez, ça fait un demi-siècle. Continuer à désigner comme migrants des gens qui sont là depuis un demi-siècle, il y a quand même une question qui demeure derrière, et je pense qu'on y reviendra. En tout état de cause, on sait aussi, et nous l'avons vérifié, que la plupart de ces gens-là, au bout de 50 ans, sont parfaitement insérés socialement, que quand on leur pose la question, ils estiment que même s'ils ne sont pas devenus riches pour la plupart, leur sort n'est pas nécessairement plus mauvais qu'il ne l'était au départ, et que même la plupart considèrent de façon très positive la façon dont ils ont pu faire leur trajectoire de vie. C'est donc déjà en rupture assez nette par rapport à ce que l'on entend, et ce que l'on entend sur un ton souvent très misérabiliste qui prend les gens pour étant quasiment dépendants déjà de naissance, étant en situation de faiblesse par rapport au reste du monde. Là, on rencontre immédiatement des gens qui ont une vision relativement positive de leur vie, de leur environnement, qui ont une vie de voisinage, qui ont une vie familiale souvent. Et on rencontre à la fois des familles, des femmes et des hommes. Quand on regarde un peu les médias, on ne voit toujours que cette figure de l'homme seul qui a été ancien travailleur, et dans la région Midi-Pyrénées en particulier, très souvent ancien travailleur agricole. En fait, quand on va sur le terrain, on découvre qu'il y a une majorité de femmes, beaucoup de veuves, qui vivent dans des conditions de logement qui demandent à être qualifiées, mais qui peuvent être relativement classiques dans le logement social, par exemple, et plus difficiles ailleurs. Et puis on rencontre aussi, effectivement, beaucoup d'hommes. Alors on dit toujours isolés. eux ne sont pas persuadés d'être isolés la plupart du temps. L'isolement qu'ils connaissent est une image pour eux, ou plutôt l'isolement dont on parle pour eux est une image qui ne rend pas compte là encore de la réalité. Nous avons essayé d'insister un peu sur ce que sont ces profils de personnes pour constater qu'effectivement, alors d'un côté il y a des familles qui ont très souvent eu des enfants, et lesquels enfants se sont scolarisés, ont grandi, sont devenus eux-mêmes des parents. Donc on parle des grands-parents. Dans une relation entre les grands-parents et les petits-enfants, somme toute extrêmement classique. Et dans des situations qui... Alors, côté famille, pose quand même une question. Les familles d'origine immigrée n'ont qu'un accès extrêmement limité aux services. Et ça, c'est une des premières questions que l'on s'est posée. Comment se fait-il que nous sommes dans la période où on a lancé depuis quelques années une allocation qui s'appelle allocation autonomie et qui est destinée à toutes les personnes de plus de 60 ans, et dans ces services-là, on ne connaît pratiquement pas les migrants. Ceci sur le versant familial. Alors si on se pose sur le versant des personnes plus isolé ou plus seul, disons, du point de vue administratif, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il est extrêmement rare que l'on voit un ancien travailleur ayant ici des attaches de plus en plus fortes, tout en ayant une partie de ses proches familiaux au pays d'origine. Il est extrêmement rare de le voir pouvoir accéder dans des conditions classiques à un soutien institutionnel ou un soutien tout simplement instrumental, direct, physique, quand il vieillit dans les conditions où il vieillit. Et alors, quelles sont ces conditions-là, pour aller très vite? On parle beaucoup des foyers. Le problème, c'est qu'en Midi-Pyrénées, des foyers, contrairement à d'autres régions, on en a, mais très peu. C'est-à-dire qu'il y a 4-5 structures, et dans ces, en fait 6 ou 7, mais 5 effectives qui ont une taille un peu significative. Et dans ces structures, on va trouver en tout et pour tout 250 à 300 personnes de plus de 55 ans, essentiellement des hommes, effectivement. Mais 250 à 300 personnes rapportées à 10 000 qu'on peut mesurer à une échelle plus large de qui sont les hommes seuls aujourd'hui dans la région, vous voyez que ça ne représente pas grand-chose. Donc il faut aller chercher ailleurs. Et ailleurs, on le trouve. Alors, à Midi-Pyrénées, par exemple, on a une situation type qui nous est apparue comme elle est apparue aux principaux intéressés. Elle se situe à Montauban. On découvre qu'il y a des vieux migrants vivant très nombreux dans du logement vétuste, sinon du logement complètement insalubre parfois, avec des situations qui frisent la perte d'imagination, qui apparaissent sur la scène publique alors qu'ils étaient totalement invisibles jusqu'à maintenant, au moment où on lance une mesure de rénovation urbaine. Et la mesure de rénovation urbaine veut dire que du jour au lendemain, des gens qui vivaient dans des conditions de loyer particulières, avec un rapport particulier à un propriétaire lui-même sortant un peu de l'ordinaire, ces gens-là vont devoir être recasés quelque part, et leur situation va devenir encore plus dramatique qu'elle ne l'était avant. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, les professionnels sont souvent en difficulté face à des situations qui s'avèrent extrêmement compliquées. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, on va y revenir très vite, mais la complexité des situations rencontrées fait que personne ou presque parmi les intervenants potentiels n'a les moyens ou ne peut, parfois même ne veut d'ailleurs, pouvoir se pencher sur un certain nombre de situations qui sont à la fois des situations sociales compliquées, des situations administratives parfois insurmontables et avec des complications majeures du fait qu'on habite d'un côté et de l'autre. Et une situation aussi qui est difficile à prendre en compte par les services sociaux et les services au domicile, d'autant plus que les personnes ne sont pas toujours là. Alors, pour finir rapidement, j'aimerais insister sur ce profil de personnes qui sont des doubles résidents, en fait. Quand on regarde comment évolue la vieillesse en général, c'est-à-dire les retraités, les personnes âgées qui sont d'origine émigrée ou non émigrée, on constate que de plus en plus, les personnes d'âge avancé souhaitent vivre seules, autonomes, qu'elles souhaitent vivre en choisissant elles-mêmes dans quelles conditions elles veulent faire leur vieillesse. Je dirais que de ce point de vue, ce que nous avons trouvé parmi les vieux migrants ou les migrants vieillissants, ce sont des situations analogues, c'est-à-dire des gens qui ne demandent rien d'autre que de faire leur vieillissement comme on peut le faire dans la plupart des cas quand on a des moyens, disons. Là, on a des gens qui sont mobiles et on s'aperçoit que s'ils sont mobiles, c'est parce qu'il y a une évolution du monde beaucoup plus généralement que parmi les gens d'origine immigrée qui veut que on puisse se déplacer quand on a envie de se déplacer, aller de sa famille à son chez-soi et réciproquement. Et on a des situations, par contre, de vieux migrants qui s'avèrent très vite difficiles où cet idéal ne peut plus être réalisé. On constate pour finir que ces vieux migrants mobiles donc, vivent dans une situation aujourd'hui. On les avait enfermés avant dans l'idée de travailleurs immigrés qui repartiraient. Vivent dans une situation aujourd'hui où ils veulent rester ici. Il est très rare d'entendre dire que quelqu'un va repartir. Veulent rester ici et pour autant garder les liens avec le pays d'origine. Et ça, socialement, ce n'est pas traité aujourd'hui.
D'après ce qu'on nous annonce, ça va dans un bon sens. Faut pas prévoir à l'avance avant d'avoir la réponse. Avant d'avoir la réponse au sujet de la résidence. نهني مانيش يلا وغرم ذي ثمرتيش غفلو مورد تمسلتيش كل أسد لي كونفيرانس كل أسد لي كونفيرانس بوري تدي تولي سانس سي فريمون بيان دوماج للراسيزمي للشوماج هوروزمون كيل يا ديساج سي لو بريستيج دو لا فرانس. C'est le prestige de la France, c'est la raison d'espérance. Angela l'chodem aywar, d'immigrés ils travaillent, y'a un as sous marchésen, au carnasti y'a de la chance. Au carnasti y'a de la chance, mais c'est de la résidence. Conversation, le chômage, l'immigration. Après les négociations, on attend qu'on nous annonce. On attend qu'on nous annonce. Chaque fois, ça recommence.
Alors, c'était un extrait, malheureusement, on vous passera la version complète une prochaine fois, de Slimane Azem et Nourdine Meziane, donc la version originale de La carte de résidence, une chanson qui a été écrite en 1967. On repart tout de suite, vous êtes en compagnie des Oreilles Loin du Front sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Et on repart tout de suite donc avec des extraits d'intervention d'une rencontre débat qui a eu lieu à Toulouse le 14 octobre dernier. Lors du festival Origine Contrôlée, donc une rencontre débat autour de la question de la vieillesse dans l'immigration. Et tout de suite, on va entendre Sylvie Mselem, qui est chargée d'études de l'association du CREOPS, Centre Régional d'Études et d'Observation des Politiques et Pratiques Sociales.
Alors bonjour, Sylvie Mselem, chargée d'études dans une association qui bosse sur Marseille. Alors on m'avait dit qu'on parlerait beaucoup de la santé, donc du coup je me suis dit je vais essayer de leur présenter quelque chose par rapport aux liens familiaux, donc ça risque d'être un peu répétitif. L'idée de l'intervention, c'est d'essayer d'expliquer le vieillissement des immigrés par les liens familiaux. Alors c'est vrai que dans notre imaginaire collectif, le vieux immigré, c'est un homme seul qui a laissé sa famille au pays d'origine. Je ne vais pas rentrer dans les statistiques, mais quand on voit les données chiffrées, effectivement, la majorité vont vieillir en famille, 10% d'hommes seuls et plus du quart de femmes. Donc en fait, comment la présence d'une part de la famille ici ou pas, la nature des liens familiaux qui ont été maintenus au pays d'origine vont être des paramètres fondamentaux du vieillissement. Alors je vais essayer de ne pas être trop caricaturale, mais en 10 minutes je pense que oui. Il y a des personnes qui ont fait venir leur famille. Quand tu les interroges et que tu les rencontres, donc peut-être vous dire que j'en ai rencontré beaucoup à Marseille et aussi en Alsace, plutôt des Algériens de plus de 55 ans et plutôt des hommes aussi. Donc ceux qui ont fait venir leur famille, quand tu vas leur parler, qu'est-ce qu'ils vont te dire ? Ma principale préoccupation, ça va être l'avenir de mes enfants et de mes petits-enfants ici. En gros, quelle place ils vont avoir en tant qu'enfants d'immigrés ? Ça, c'est la première figure. Puis il y a ceux qui n'ont pas fait venir leur famille, qui vieillissent aujourd'hui, et quand tu discutes avec eux, ben, l'éloignement familial, ça va être une véritable blessure et une perte de sens concernant leur parcours migratoire. C'est-à-dire, finalement, je suis venue ici, j'ai bossé, je vieillis sans ma famille. Alors, pour justifier ce qui est injustifiable, vieillir sans famille, ils vont avoir deux types d'arguments. Pas frontal quand tu leur parles, mais tout au long de la discussion, ils vont te dire finalement j'ai bien fait de ne pas faire venir ma famille, parce que si j'avais fait venir mes enfants, ils crameraient des voitures, je cite, ou ils se drogueraient. Et puis sinon, ma femme, au contact de la société française, se serait émancipée. C'est une manière de justifier le fait qu'on ne les ait pas fait venir. Alors, quand tu discutes avec eux, ils sont partagés entre le désir de retourner au pays d'origine et la hantise de se sentir mal à l'aise, puisqu'ils sont repartis en vacances. Ils se sont rendus compte qu'au bout d'un mois, ben, finalement, ils n'ont pas tout à fait leur place. Donc, ils reviennent finalement. Alors, ce qu'on voit apparaître, et qui est important aujourd'hui d'en parler par rapport à l'articulation entre famille et vieillissement, c'est qu'ils sont affaiblis quand ils vieillissent. Donc, ils veulent faire ce qu'on appelle des regroupements familiaux tardifs, faire venir la famille. Alors, vous allez me dire que ce n'est pas trop dans le contexte actuel, mais pour faire venir sa famille aujourd'hui, il faut des conditions de logement et de ressources qui n'ont pas. Si tu vis en chambre, en hôtel meublé ou en foyer, tu n'as pas un appartement pour faire venir ta famille. Alors je le dis aujourd'hui, il faudrait assouplir, on peut toujours rêver, les conditions de logement et de ressources pour permettre à ces personnes âgées, affaiblies de faire venir leur famille, parce que c'est un droit qui est stipulé dans la Convention européenne des droits de l'homme. Et en dehors du niveau politique, il y a des intervenants sociaux et médicaux qui vont vous dire un regroupement familial tardif, non, parce que ça va créer des conflits conjugaux, ils n'ont pas l'habitude de vivre ensemble, peu importe, ils ont le droit de choisir. Alors en fait, ce qu'il faut retenir quand tu discutes avec eux, c'est que voilà, qu'il y a d'un côté les vieux qui vieillissent en famille et qui se projettent dans l'avenir du fait de la présence des enfants et des petits-enfants, et d'un autre côté des hommes isolés qui vivent au jour le jour finalement sans leur famille. Alors le travail et l'argent qu'on envoie à la famille restée au pays va nous rendre légitimes. Je vais essayer de faire ça rapide. Tu as deux types de profils et de parcours. Tu as des gens qui vont travailler dans différentes villes de France et puis ils vont avoir une expérience longue et durable dans une entreprise. Eux, au niveau de la retraite, ils vont avoir des pensions de retraite conséquentes. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont avoir des parcours chaotiques, fragmentés. Alors, j'aurais pu parler des accidents de... Je pensais que tu allais en parler. Accidents de travail, maladie, chômage, qui font qu'au total, ils vont avoir une toute petite retraite qu'on appelle le minimum vieillesse, qui est soumis à condition de résidence, auquel ils envoient une partie à la famille restée au pays d'origine. Ce que je voudrais aussi amener aujourd'hui, c'est que, en dehors de ceux qui vivent en famille, dans ceux qui vivent seuls et qui envoient de l'argent au pays d'origine, ceux qui vont maintenir des liens avec le pays d'origine, qui vont aller souvent, qui vont envoyer de l'argent, ils vont être plus légitimes et ils vont avoir un équilibre que d'autres n'auront pas parce qu'ils ont rompu. C'est-à-dire que même quand on est seul, il y a des profils qui se distinguent en fonction du rôle et de la fonction qu'on occupe là-bas. C'est-à-dire ce qui n'est pas visible dans la société d'accueil s'explique par le rôle et la fonction qu'on a au pays d'origine. Est-ce que c'est clair? Ça va pas trop... Alors, ensuite, toujours en gardant famille, pas famille. Qu'on vive en famille aujourd'hui ou qu'on vive en foyer, on est assigné à résidence. C'est-à-dire que toutes les personnes que j'ai rencontrées, elles sont arrivées célibataires, elles vont construire une famille et puis elles sont bloquées dans le parc HLM du fait de pratiques discriminatoires dans le parc public ou privé, selon elles. Pour les foyers, tu as des gens que ça fait 30 ans qu'ils sont en foyer, qui ont toujours vécu en foyer, principal avantage, le faible coût du loyer qui rend toujours possible du coup l'envoi de l'argent à la famille. Et puis il y a des situations, il y a des situations de personnes donc, qui ne sont pas en foyer, qui ne sont pas en famille, qui sont en chambre, en hôtel meublé, et puis des sans domicile fixe, en errance, je vais y arriver. Bon, alors pour ceux qui vivent en foyer, je pense que les relations sociales sont encore plus restreintes que pour ceux qui vivent en famille. C'est une vraie bulle sociale. Ils vivent d'une manière communautaire, entre guillemets, dans un double sens, je m'explique et je précise. Ils vont avoir des relations qu'avec le gars du foyer qui est originaire du même bled. Il y a des modes de vie collectifs avec des repas en commun, une forme de solidarité. Mais là, j'attire votre attention sur le fait qu'on nous dit qu'il y a une solidarité, mais il y a des personnes qui vont être exclues du groupe. Il y a les caractériels, les personnes qui ne sont pas originaires du même coin, du même bled, et surtout des personnes trop dépendantes. Donc quand on nous dit que le mec de 80 ans qui a un Alzheimer en foyer, il va être pris en compte par les collègues, c'est plus vrai ça. Faut essayer de réfléchir à des solutions parce que c'est une limite de la solidarité. Comme tu n'en as pas parlé, je vais le dire, c'est que quand même ce qu'il faut noter, c'est qu'un tiers des immigrés, c'est un chiffre, présente une symptomatologie dépressive, c'est-à-dire des états de dépression, contre 17% pour la population générale. Des vieux que j'ai vus qui te disent « moi j'ai les nerfs, j'ai un diable qui tourne dans ma tête » sans pouvoir exprimer le fait qu'ils pensent au suicide. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont davantage isolés, enfin, quand ils sont en rupture familiale, davantage isolés et ont des symptômes dépressifs. Alors, bon, je vais finir par ça parce que c'est le plus important. En fonction des situations familiales qu'on va avoir, en famille, dans des liens maintenus avec le pays d'origine ou des liens rompus, on va avoir un mode de vie différent. C'est-à-dire, je vis en famille, mes enfants sont là, je ne vais pas repartir, quelque part je m'enracine ici. Effectivement, j'ai pris des habitudes, mes enfants sont présents ici, et puis je vais m'ancrer. Alors, sans tomber dans l'inverse, il y a des signes d'ancrage sur le territoire français, tu l'as dit, certains, mais c'est la minorité, accèdent à la nationalité française, surtout pour les Algériens, parce que acquérir la nationalité française c'est-à-dire du pays colonisateur, c'est quand même un paradoxe insurmontable, mais il y a une minorité qui va l'acquérir pour se vacciner contre l'expulsion parce que les enfants sont présents. Donc c'est le premier signe d'ancrage. Il y a une demande de pouvoir pratiquer l'islam ici avec des lieux de culte parce qu'on vieillit. C'est aussi un signe d'enracinement. Et en fait, pour certains, je dis bien c'est la minorité, se faire enterrer ici, la demande de carré musulman. Ça, c'est ceux qui vivent en famille. Et puis, il y a la majorité, ceux qui ont laissé leur famille au pays, qui vont être dans ce qu'on appelle l'aller-retour. La pratique des allers-retours qui n'est pas reconnue aujourd'hui par un statut juridique. Donc voilà, la pratique des allers-retours, on fait les allers-retours et ça permet d'avoir un équilibre. Et je vais vite, il y a une dernière catégorie, ce qu'on appelle les djihin, les personnes qui sont perdues, qui ont rompu le pacte avec la famille d'origine, qui n'ont plus de contact, parce qu'il y a pu avoir un conflit familial, un divorce, une rupture. Donc en fait, le sens de mon intervention, je sais que ça a été rapide, peut-être un peu caricatural, c'est de dire que on ne parle pas de la même chose, il y a plusieurs cas de figure, et vous allez me dire pourquoi elle nous dit ça, parce que pas connaître ces différents types de profils fait qu'aujourd'hui on va proposer des lois qui ne sont pas adaptées à la réalité sociologique, c'est-à-dire penser aujourd'hui qu'il y a une majorité de gens qui vont encore retourner, parce que le mythe de retour est persistant, c'est ne pas savoir finalement de qui on parle.
Voilà, donc c'était des extraits d'une rencontre-débat autour de la question de la vieillesse dans l'immigration, une rencontre-débat qui avait eu lieu à Toulouse au cours du festival Origine Contrôlée le 14 octobre dernier. Notre émission, dont on peut déjà aussi dire un grand merci au Tacti Collectif et notamment à Audrey donc, qui nous a transmis cet enregistrement. Si la question vous intéresse plus largement, si vous voulez un peu connaître les initiatives du festival Origine Contrôlée et puis du disque qui est dernièrement sorti, du disque de Mousse et Hakim, qui porte le même nom et qui revient donc qui reprend des chansons de l'immigration algérienne, vous pouvez réécouter notre émission du 2 janvier qui est en ligne sur notre site www.loldf.org. Et voilà, et on peut dire l'émission se termine, donc les oreilles loin du front, c'est fini pour ce soir.
1, 2, 3, hula hoop. 1, 2, 3, hula hoop.
On approche, Chico, attention, enclenche les rétrofusées.
Voilà, ça c'est bien du Fréquence Paris Pluriel 106.3. Donc les oreilles loin du front, c'est fini pour ce soir. On avait avec nous en technique tournante Jérémy et Guillaume et puis aux voix également Jérémy et Guillaume. Voilà, et donc on se retrouve la semaine prochaine. Enfin, si vous réécoutez vendredi, vous pourrez donc nous réentendre vendredi de 12h à 14h30 sur cette même antenne, sur le 106.3. On mettra en ligne, bien évidemment, tout ça d'ici quelques temps hein, sur notre site www.loldf.org. La semaine prochaine, on se retrouve donc mercredi à 19h jusqu'à 20h30 avec Alain Badiou. Donc une émission au vol, je pense. Et puis là, tout de suite, avant de dépasser l'heure, on va vous laisser dans les bras des Échos du Capricorne. Guillaume, tu voulais rajouter quelque chose ?
Oui, alors précisons que quand même, c'est une grosse émission la semaine prochaine. Alain Badiou, c'est un pont de la philosophie française, un brillant militant de la cause du prolétariat. Et donc, ça va être une émission particulièrement dense. Et on est très, très, très heureux de le recevoir. Donc, faites-le savoir.
Ouais, merci de nous mettre l'eau à la bouche. Et on rend tout de suite l'antenne parce qu'on est déjà un petit peu en retard.